Vous écoutez
RMC. RMC, Charles Matin.
Et à 6h, vous avez rendez-vous avec Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 217 interpellations hier soir à Paris. La soirée a dégénéré. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue partout en France pour dénoncer le passage en force de la réforme des retraites. Quelle suite politique maintenant? L'opposition a jusqu'à 15h20 pour déposer ses motions de censure et tenter de renverser le gouvernement. Et puis le foot, c'est Nice qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conférence League en battant Tiraspol 3-1 hier soir.
Et puis notez bien que dans un instant, c'est Louis Marguerite, député macroniste, un député Renaissance de Saône-et-Loire, qui sera en direct avec nous dans quelques minutes sur RMC pour justifier ce 49.3. Soyez bien au rendez-vous, c'est à 6h10. La mobilisation contre la réforme des retraites a fini par dégénérer hier soir.
Oui, les manifestations se déroulaient dans le calme jusque-là depuis janvier, mais le recours au 49.3 a déclenché la colère de milliers de Français descendus dans la rue partout en France. Au moins 6000 personnes hier soir à Paris où le rassemblement place de la Concorde s'est transformé en manifestation sauvage avec des feux de poubelle et de gros dégâts dans les beaux quartiers, nous explique Nicolas Robert pour RMC.
Des groupes de manifestants déambulent en chantant des slogans dans les rues de la capitale. Les forces de l'ordre chargent et les repoussent loin de la place de la Concorde avec gaz lacrymogène et bombes assourdissantes. Les protestataires, souvent à peine majeurs, brisent des vitrines, brûlent des poubelles et s'en servent comme barricades. Le pare-choc d'un 4x4 a complètement fondu. Son propriétaire, sidéré, découvre son véhicule.
C'est niqué ma voiture, j'ai rien à voir. J'ai quoi à voir, moi, dedans?
Devant l'Olympia, des commerçants tentent d'intervenir pour empêcher de nouvelles dégradations. David, qui tient une brasserie chic en face, en veut au président Emmanuel Macron.
Tu vas être le fossé, lui, hein. 49.3, fallait oser. Hein.
Ça peut être très explosif si les étudiants se mettent dedans. C'est les jeunes, hein, qui n'ont rien à foutre. Les mecs, ils foutent le feu, ils courent, ils se barrent.
Ce 49.3 a décuplé la colère.
C'est la fête de la défaite de Macron qui s'annonce pour nous.
Ces violences sont inévitables, défend Paco, un des protestataires.
Tant qu'on ne sera pas devenu une gêne pour ceux qui décident, ils vont rien faire. On est au début de quelque chose. Ce sera une forme de continuité des gilets jaunes.
Après plus de 3 heures d'échauffourée, le calme est revenu vers 22h30 dans les rues de la capitale.
Il y a eu 217 interpellations à Paris, des boutiques et des banques saccagées à Marseille sur la Canebière et rue Sainte-Féréole. Des tirs de mortier à Nantes, il y en a eu à Rennes aussi. Vous êtes en direct ce matin pour RMC, Marion Gauthier. La mairie socialiste de Rennes parlait hier soir de violences sidérantes dans cette ville. Est-ce que vous voyez les dégâts, vous, ce matin?
Oui, c'est visible aux nombreuses vitrines brisées, souvent recouvertes de panneaux de bois, aux tags, aux traces de brûlés par terre. Et c'est audible aussi lorsque vous marchez, ça crisse, les débris de verre font scintiller les pavés. J'ai croisé des éboueurs, l'un d'eux travaille ici depuis 3 ans, il m'assurait qu'il n'avait jamais vu ça. L'air pique encore un peu la gorge, odeur de gaz lacrymogène ici sur la place Sainte-Anne où tout a commencé. Vers 19h hier, des centaines de manifestants se sont rassemblés, puis éparpillés dans la ville. 26 feux ont été éteints par le service d'incendie et de secours d'après la préfecture qui parle de 700 jeunes dont 300 ultras qui ont poursuivi, je cite, leurs exactions jusqu'à minuit environ. Pas de chiffre des blessés mais il y a eu hier 8 interpellations et autant de gardes à vue.
Et si autant de Français sont descendus soudainement dans la rue hier soir, c'est parce qu'ils étaient révoltés, le mot est souvent revenu, par le recours au 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites dans un brouhaha pas possible à l'Assemblée nationale. L'opposition de gauche ayant chanté la Marseillaise tout au long du discours de la Première ministre Elisabeth Borne qui s'est dite choquée hier soir aux 20h de TF1.
Vous savez, j'ai été très choquée. Quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue.
C'est la 11e fois que le gouvernement Borne a recours au 49.3 depuis 10 mois, ce qui en fait déjà le 2e gouvernement de la 5e le plus gourmand en la matière. Et Sébastien Krebs du service politique à RMC, vous nous dites que même que ce passage en force choque au sein de la majorité.
Oui, on est tous sonnés, nous a confié un député Renaissance. Il y a de la déception, de la frustration. Je suis atterré par le choix du 49.3, regrette un autre. Les élus Modem, par exemple, ne cachent pas leur agacement.
J'aurais voulu qu'on vote, après il se passera ce qui se passera. Ça n'a plus beaucoup d'importance.
Nous, on souhaitait le vote, c'est ça.
On souhaitait un vote. On est très mécontents du 49.3.
Et tout cela s'est exprimé dans une réunion de groupe de tous les députés de la majorité à huis clos, juste après l'hémicycle. La première ministre était là, au bord des larmes, au moment d'évoquer son destin personnel. personnel. Elle a été longuement applaudie. Elle ne doit pas servir de fusible, insiste le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade.
Elle a été ovationnée et extrêmement soutenue dans la réunion de groupe qu'on vient d'avoir à l'instant. Et je peux vous assurer que la majorité est derrière elle et qu'on continue à la soutenir parce qu'elle mène des réformes importantes pour le pays. Et on ne va pas s'arrêter là parce que la situation politique est aujourd'hui difficile.
Mais certains expriment aussi leur colère et des voix émergent pour demander un changement de méthode. Il faut tout remettre à plat, lance un député sans majorité. On ne peut plus, comme avant, montrer les muscles.
Le gouvernement a donc engagé sa responsabilité avec ce recours au 49-3. Hélène Terzian du service politique à RMC. L'opposition a jusqu'à 15h20, c'est ça, cet après-midi, pour déposer des motions de censure.
Exactement. Et au moins deux motions de censure pourraient être déposées. D'abord, celle du Rassemblement National. Marine Le Pen, c'est la première à l'avoir annoncée immédiatement après le déclenchement du 49-3. Difficile, en revanche, d'imaginer qu'elle soit votée dans l'hémicycle. En réalité, tous les yeux, et surtout ceux de l'exécutif, sont rivés sur la motion transpartisane qui se prépare du côté de l'UIOT, ce petit groupe de 20 députés indépendants plutôt centristes. La NUPES est déjà prête à s'y associer. Alors, est-ce que cette motion a des chances d'aboutir? Pour cela, il faut que les voix de l'UIOT s'additionnent à celles de toute la gauche, du RN et au moins 30 députés LR. Là encore, difficile d'y voir clair à droite. Les chefs du parti s'y opposent. Une poignée de députés se désolidarisent. Pas sûr que cela soit suffisant toutefois pour que la motion soit votée à la majorité lundi, si elle est déposée. Car si elle aboutit, le gouvernement le sait, il sera poussé à démissionner, encore plus fragilisé, et alors poussé à démissionner.
Et en attendant la 9e journée de mobilisation des syndicats, la semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande dans une circulaire au préfet de renforcer la protection des élus de la majorité. Une demande qui a été formulée par la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger, redoutant des représailles. L'Assemblée nationale a voté hier soir tout autre chose, un durcissement des peines sanctionnant les intrusions dans les centrales nucléaires dans le cadre de son projet de loi de relance. La gauche redoute que ce soit un frein aux actions des anti-nucléaires. L'aventure européenne, je vous le disais, qui continue pour Nice en football. Vainqueur 3-1 de Tiraspol hier soir, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League. Maxime Tillette, racontez-nous cette belle soirée hier soir de foot à Nice.
Supporters et joueurs niçois savourent pour la première fois depuis 1960 leur équipe rejoint les quarts de finale d'une compétition européenne. Une fierté pour l'entraîneur adjoint Julien Sablé.
L'aventure continue, c'est le troisième quart de finale de l'OGC Nice dans son histoire, donc on est content d'écrire un bout de l'histoire.
Une qualification niçoise qui redonne le sourire au football français après les éliminations récentes de Paris, Monaco, Nantes ou encore Rennes. L'attaquant Gaëtan Laborde savoure.
Au final, nous on pensait surtout à notre performance et de passer, après forcément c'est positif pour tout le monde.
Et désormais qualifiés en quart de finale, les Niçois et leurs défenseurs Jean-Claire Todibo ne se fixent aucune limite.
On va essayer de rendre cette histoire encore plus belle et pas s'arrêter sur un quart de finale. Après, on va pas jouer la compétition avant l'heure, on prendra match après match.
On connaîtra tout à l'heure à 14h le nom du prochain adversaire des Niçois en quart de finale de cette Conference League.
Et Nice qui joue avec son milieu de terrain, Kefren Thuram, un des trois petits nouveaux appelés en équipe de France de foot par Didier Deschamps pour les deux matchs de la fin du mois des Bleus.
Bah oui, il rejoint son frangin, Marcus. La fratrie Thuram en équipe de France.
Troisième Thuram en équipe de France.
Oui, on va revenir sur cette liste de Didier Deschamps, cette fratrie Thuram. Tout à l'heure dans la Story Sport, ce sera avant 6h30, avant de retrouver Apolline. Pour Apolline Matin, il y aura votre Story Sport évidemment sur RMC.